Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bonjour à tous et bienvenue dans la Conspiration des planches. Conspiration des planches spécial été. On vous accompagne encore quelques semaines durant ces mois de juillet et d'août pour vous procurer quelques émissions un petit peu particulières. Et pendant 4 semaines, nous vous proposerons justement des rencontres avec les nouveaux directeurs de théâtre. En effet, ils sont plusieurs à avoir pris leurs fonctions en cette fin de saison et à nous proposer leur première saison justement à partir du mois de septembre. Alors tour à tour, nous les recevrons pour parler de leur projet, comment ils vont faire vivre leur lieu de représentation, leur lieu de spectacle, leur lieu de création également. Cette semaine, on prend la direction des Richclair, qui vient de voir son nouveau directeur installé. Il s'agit d'Éric de Starck. Alors c'est pas un inconnu évidemment des scènes bruxelloises et même belges. Il a collaboré à beaucoup de spectacles. Il est lui-même metteur en scène, auteur également. Et il a beaucoup travaillé également du côté de la RTBF. Il prend donc possession de la direction des Richclair après nomination du conseil d'administration. Nous l'avons rencontré pour parler de son projet et je vous propose d'entendre tout de suite cet entretien.
Moi j'ai commencé au Richclair parce que Jacques Viala m'avait appelé là-bas. Jacques Viala avait repris la direction donc en 2000 ou en 1999, quelque chose comme ça. Et on a créé, grâce à lui, il nous a invités, on a créé Est-ce qu'on ne pourrait pas s'aimer un peu en décembre 2000, ouais. Voilà. Et voilà, et donc du coup, il m'a demandé de rentrer dans le conseil d'administration et de m'intéresser à la gestion du lieu à travers les spectacles et d'avoir un œil plutôt d'un artiste, pas seulement des gestionnaires. Et voilà, ça m'a permis de connaître un peu le lieu, de m'y intéresser. Il m'avait déjà proposé de reprendre lorsqu'il est parti, mais voilà, moi j'aime bien la tournée, j'aimais bien les routes, etc. Ici, quand Mélanie est partie, il y avait un flottement. C'est-à-dire que je me suis pris au jeu de dire, voilà, il faudrait créer le profil idéal pour... Et la personne qui était censée reprendre a repris la bélone. Et donc, voilà, à un moment donné, je me suis dit, de trouver devant mes responsabilités, d'avoir jeté un profil de directeur. Et voilà, j'ai des amis qui m'ont dit, fais-le. Et donc, je me suis lancé dans l'aventure. Mais plus aussi avec l'idée de faire tourner le lieu. J'ai aucune ambition personnelle. J'aime bien ma fonction d'acteur, d'être artiste. Donc oui, ça me demande un certain effort, en fait, de directeur.
Est-ce que dans la fonction de directeur ou d'animateur, qui est fort aussi administratif, il y a aussi du créatif ?
Oui, en fait, depuis toujours, heureusement, j'étais formé à l'IAD, j'étais formé à l'esprit de troupe, et avec, je dirigeais déjà 2 compagnies, le Théâtre Loire-du-Trac et le Panache Club, et donc forcément, pour moi, c'est évident que l'administration fait partie intégrante de la création, il n'y a pas de création sans économie, etc., donc c'est un jeu. Le but, c'est, ici, ce qui me plaît vraiment, c'est de ramener plein de gens sur la scène, c'est de permettre à plein d'autres de le partager. Je ne suis pas là pour montrer mes projets, même s'il y en a 2-3 qui sont là, parce que c'est inévitable. D'abord, pour que le public ne se perde pas. Et puis, parce que c'est plus facile pour moi de resserrer certaines activités sur le lieu. Mais le but n'est pas de montrer ce que moi je fais. C'est au contraire de montrer ce que les autres font. Et ça, c'est très, très agréable. Là, je coule sous les dossiers, les demandes. Donc, la saison est lancée. Il y a 27 spectacles, mais j'en reçois encore d'autres. Puis, on a essayé d'ouvrir surtout sur le cinéma, sur la musique, sur les conteurs.
Un vrai centre culturel, quoi, multidisciplinaire.
Oui, c'est ça. C'est, en fait, comme le but, c'est de faire vivre un quartier, on a une bibliothèque qui est adossée au centre culturel, qui est une bibliothèque importante, qui reçoit près de 20 000 personnes par an. Et beaucoup de visiteurs de la bibliothèque ne connaissent pas le centre culturel, beaucoup de visiteurs du centre culturel ne savent pas qu'il y a une bibliothèque. Et donc voilà, notre pari, c'est de faire se mélanger les publics.
Il faut un déclic quand même quand on se dit « je vais être animateur, directeur ».
Bon, ça vient au fur et à mesure des années, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a acculé. C'est-à-dire qu'on a acculé, on a amené des projets où on a ouvert sa gueule, comme on va dire. C'est-à-dire voilà, à un moment donné, je me dis je ne vais pas critiquer les autres, je vais le faire. Je n'ai pas de leçon à donner à personne, il faut agir simplement avec les moyens qui sont à sa disposition. Ici, c'est un lieu qui n'a pas de budget de création, il a un budget de fonctionnement. Mmh. Alors voilà, notre devise, c'est fonctionnons.
Et de la ville uniquement.
De la ville, uniquement, pas encore de la communauté française, mais on ne perd pas espoir. Mmh. On y travaille.
Ah, c'est bientôt le grand rendez-vous, justement.
Oui, ouais. Et puis il y a une révision un peu des centres culturels, et donc voilà. Mais je pense que ce qui compte surtout, c'est d'avoir des missions auprès des gens, auprès du public. Ici, la fonction du centre culturel, c'est de démarrer à 15 ans, puisque la Montagne Magique n'est pas loin, qui fait un travail extraordinaire avec les enfants, les enseignants et les parents. Et donc ici, nous, notre contrat, il va cibler les gens à partir de 15 ans. Et donc, bien sûr qu'on s'est tourné vers la création contemporaine, mais ça n'empêche pas d'aller revisiter dans des auteurs classiques, avec un œil nouveau, un regard frais. Et bien sûr que donc on cherche dans les jeunes propositions. Et puis c'est aussi l'occasion de donner une carte blanche. Les dossiers, c'est bien, mais à un moment donné, on doit dépasser les dossiers. Il faut donner sa chance aux plus jeunes.
Être directeur, ok. Être animateur, ok. Mais pourquoi les Riches Clairs ?
Alors, je pense que c'est une question de filiation aussi, parce que...
Jacques Viala, vous le connaissez bien, évidemment. Vous avez beaucoup travaillé avec lui.
J'ai travaillé avec lui, puis j'ai suivi le travail de Mélanie, parce que Mélanie a continué à nous faire confiance. Et donc, voilà, c'est-à-dire que vous m'auriez proposé un autre lieu. Non, je crois que ça ne m'aurait pas. J'aurais continué ma petite vie d'artiste. Je pense que c'est parce que là, il y avait quelque chose à faire. Il y avait une urgence. Est-ce qu'on choisit ces choses-là? Moi, j'aime bien, en fait, que ce genre de choses viennent à nous. Je suis pas carriériste. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit, un jour, je serai directeur de ceci. Non, non. C'est-à-dire que ce que j'aime, moi, c'est raconter des histoires. Vraiment, je ne dis pas ça pour... le théâtre ne doit pas simplement raconter des histoires, loin de là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler aux gens. Et donc, au départ, je raconte une histoire. Bon, je monte sur une caisse, je joue, puis la caisse devient une scène. Et puis, à un moment donné, je vois que cette histoire, j'ai pas ma place dedans, parce que c'est une femme qui la raconte. Mais je voudrais qu'elle se raconte. Donc, je vais aller à la mise en scène, je vais construire le décor. Et j'ai fait toutes les fonctions. Et à un moment donné, j'arrive ici à un stade où j'ai envie que les histoires se racontent. Et ben, pour qu'elles se racontent, je dois aller chercher des sous pour les autres, je dois faire en sorte que le lieu tourne. Et le but, c'est toujours le même, c'est que les gens puissent entendre cette histoire. Mais ce ne veut pas dire que je dois être dedans.
Est-ce que la formation artistique que vous avez suivie, par exemple, à l'IAD, prépare à ce genre de fonction ou pas du tout?
Oui, si, elles préparent complètement. Enfin, je veux dire, là, aujourd'hui, on a rouvert une section, on a en fait un certificat en gestion culturelle qui est ouverte. Mais à l'époque, moi, j'avais cours avec Henri Hindberg, qui avait refait tout l'organigramme de la communauté française. On travaillait beaucoup dans le sillon d'Armand Delcampe, qui est quand même un homme extraordinaire, c'est-à-dire qu'avec toutes ses qualités et ses défauts, mais c'est un merveilleux gestionnaire de théâtre qu'il a prouvé. Je pense qu'on a manqué le coche le jour où il aurait pu peut-être devenir directeur du Théâtre National. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez lui de puissant. Et donc forcément qu'il nous racontait comment il gérait. Moi, j'ai pu être son assistant. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'était surtout l'esprit, parce que la comptabilité, on peut l'apprendre. Enfin, je veux dire, toutes ces choses-là, c'est pas encore... Puis il y a des gens qui sont compétents en comptabilité. Je ne voudrais pas te dire que je suis compétent en comptabilité, alors qu'il y a des vrais comptables. Mais il faut pouvoir lire un plan comptable. Mais c'est surtout l'esprit. Alors, c'est vrai que Jean Villard, c'est une époque, mais je pense qu'on doit réinventer cette époque-ci. Et je pense qu'on est dans une époque où beaucoup de choses changent. Et moi, je crois vraiment au fait que les artistes reprennent des responsabilités à tous les niveaux que ce soit. Et donc, s'il y a des artistes qui nous entendent, faites-le. C'est-à-dire que vous soyez dans un foyer culturel, qui est une académie dans votre village. Mais prenez des responsabilités, parce que je pense qu'en ces périodes d'austérité, on va essayer d'économiser à tort sur certaines fonctions culturelles. Moi, je crois vraiment que c'est les poètes, c'est les auteurs, c'est les artistes qui vont donner un sens à ce que nous allons traverser, puisqu'on va traverser une période, à mon avis, économique extrêmement dure. Et on n'est pas cher, en fait. C'est pas ça qui coûte. Mais les artistes ne vont pas nous apporter une solution financière à nos problèmes, mais ils vont nous aider à traverser cette période en s'intéressant à l'essentiel. Et donc, je crois vraiment au fait que c'est l'esprit de gérance, de gestion, qui va le mieux nous sauver.
Vous avez l'impression que dans les artistes contemporains, il y en a qui se sont désimpliqués du monde ?
Je pense que les artistes, oui, se sont endormis à un moment donné, d'une manière générale. Je ne pointe personne du doigt, mais je pense qu'on s'est tous fait avoir. Parce que la reconnaissance d'un statut, bien qu'on souffre toujours d'un manque de statut d'artiste, mais la reconnaissance de la fonction, je compare à d'autres pays comme le Québec ou la Suisse, où il n'y a presque pas de chômage d'artistes, c'est-à-dire qu'un artiste doit rester en éveil. Attention, ce que je dis est toujours extrêmement dangereux, parce qu'on dit, ah, donc s'il n'y a pas d'argent, l'artiste est plus créatif, donc supprimons-lui son argent. Non, non.
C'est ce qui se dit parfois, hein.
C'est ce qu'il dit souvent, mais je vois des gens comme David Bowie, même, il arrive à rester créatif, même au-delà des limites. Non, non, donc je veux dire, je ne crois pas que ce soit ça. C'est le confort, en fait. Mmh. C'est le faux confort. Et le fait qu'on se dit, bah voilà, on a un ministre de la Culture, on a des gens qui vont gérer, qu'on envoie dans les commissions à notre place. Et en fait, non. Non, c'est-à-dire qu'on doit se battre sur chaque projet, on doit défendre chaque idée. Il faut, dans les écoles, par exemple, on véhicule un tas d'idées fausses, on dit, ah, il y a trop d'artistes. Et en fait, non, il n'y a pas trop d'artistes, il n'y a pas trop de comédiens. On ne sort pas trop d'élèves des écoles. On ne sort peut-être pas toujours les bons, mais ça, c'est la vie. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'artistes belges qui travaillent à l'RTBF, par exemple. C'est extrêmement rare. Quand moi j'étais étudiant, tous mes professeurs travaillaient à l'RTB, à la radio, à la télé. Je suis un des rares à avoir pu travailler vraiment régulièrement à l'RTB. On a des dirigeants, par exemple, au niveau culturel, qui préfèrent aller chercher des produits à l'extérieur. Moi, je suis pour l'ouverture, évidemment. Il faut qu'on mélange les cultures. Il faut qu'on ouvre vers la France et vers d'autres pays francophones. Mais il faut aussi qu'on fasse confiance à nos artistes ici. Et je pense que là, on s'est endormi et on s'est fait avoir.
Alors, je vous ai demandé d'amener quelques choix musicaux pour cette émission. Un de vos premiers choix, donc, c'est Jacques Higelin.
Oui, que j'ai vu ici, en fait, à l'auditoire Paul-Émile Janson, en concert quand j'avais 16 ans. Donc, oui, bien sûr, ça marque les esprits, quoi.
Quel titre ?
Alors, moi, j'ai pris Tomber du ciel.
Pourquoi ?
Ben, parce que directeur, c'est un peu ça, hein, c'est un peu vous tombez du ciel, et puis on ramasse tout. Et moi, ce que j'aime bien chez Higelin, c'est qu'il tombe, mais il rebondit. Il rebondit toujours. Et moi, ce que j'aime bien dans sa poésie, dans sa musique, c'est son énergie qui ne fléchit pas avec le temps. Moi, ses concerts, et entre autres, je pense au concert Paul-Émile Janson, c'était Champagne à l'époque qui jouait. Mais c'était extraordinaire. Moi, je me disais, j'étais à deux, je disais, waouh, on peut faire ça. Quoi. Et j'espère que, voilà, que les gens s'asseyent dans une salle en se disant, waouh, on peut faire ça.
Rebelle aux louanges. Chassé par les anges du paradis originel, tombé du sommeil, perdu connaissance, retombé en enfance, au pied du grand sapin de Noël, voilé de mystère, sous mon regard.
Jacques Higelin, tombé du ciel. Alors vous disiez juste avant, Jacques Higelin, il est tombé, il a rebondi. Est-ce qu'Éric de Starck est tombé plusieurs fois?
On tombe tout le temps. Quand on prend des risques de création, oui. Il y a beaucoup, on parle toujours des spectacles qui fonctionnent, puis on parle moins de ceux qu'on rate ou qu'on n'arrive pas à mener là où on voudrait. Et donc, vraiment, pour en réussir certains, j'en ai raté beaucoup. Oui. Mais ça fait partie des brouillons. Je crois beaucoup aux brouillons, au dessin, etc. Et donc, je crois vraiment aussi que les échecs font partie de la création. Ça fait partie, c'est le risque. On doit les limiter au maximum. Attention, quand je dis un échec, c'est parce que est-ce qu'on ne pourrait pas s'aimer un peu? On va le jouer près de 800 fois.
Ouais.
Et que les autres spectacles, j'ai joué que 100 fois.
Hein. Oui,
donc,
c'est ça.
Voilà, et qu'est-ce qu'on cherche? Moi, ce que je cherche, c'est la rencontre avec le public. C'est quand je sens que ce n'est pas l'unanimité ou que que ça passe un peu à côté ou que ce n'est pas là où je voulais. Et puis, faut qu'on garde nos exigences aussi. C'est ça qui est intéressant.
En étant animateur des Riches Clairs, vous n'abandonnerez pas, j'imagine, vos autres projets, le Théâtre Loyal du Trac et Panache Club?
Ben, on va les mettre un peu... On va diviser les choses. C'est-à-dire que bon, le Panache Club, d'abord, il a sa propre vie, il vit très bien. Là, il prépare un film, il prépare une nouvelle pièce, il est en tournée avec Nothing. Donc, je pense que c'est quelque chose, une collaboration qui pourra s'organiser. Mmh. Je pense qu'avec Bruno Coppens, je continue à le mettre en scène. Ça peut tout à fait s'organiser sans faire préjudice au théâtre d'Éric Clair. Maintenant, pour le loyal du Trac, je dois réduire la création, bien sûr. Mmh. Je ne peux pas me permettre d'être à deux endroits à la fois. Mmh. Je n'ai pas ce don d'ubiguïté.
Est-ce que l'écriture, ça vous suit toujours, quand même ?
Oui, oui, mais donc là, je vais utiliser mes temps libres, s'il m'en reste, mais à écrire, à rêver, à faire d'autres choses, quoi.
Mais avant de se lancer dans cette aventure de directeur, est-ce qu'on se dit, ah, attention, ça, je vais devoir le mettre de côté ?
Oui. Oui, oui, bien sûr. Donc, j'ai dû négocier avec le conseil d'administration de pouvoir continuer à donner cours à l'IAD. Parce que je pense que c'était pas. C'est difficile de reprendre un centre qui doit être jeune en abandonnant les jeunes. C'est-à-dire que ça m'a beaucoup inspiré. Et puis, ça me permet de prendre le pouls. C'est-à-dire de donner cours, c'est de savoir où en est la génération qui arrive chaque fois. Et puis, beaucoup d'étudiants sont là du conservatoire, de l'INSAS, de l'IAD, sont dans la programmation. Et c'est vrai de dire aussi à des jeunes qu'il y a un lieu où ils seront entendus. On ne va pas leur refermer la porte, on ne va pas renvoyer un mail en disant « Merci, on vous écrira ». Qu'ils puissent venir défendre leur projet. Et comme je disais tout à l'heure aussi, une carte blanche, c'est aussi... Moi, je les connais, les artistes. Je vois les étudiants qui me rendent des dossiers. Et comme je les connais de la scène, je me dis « Le dossier ne reflète jamais ce qu'ils sont. » Donc, je dis « Ne m'explique pas, fais-le, joue-le. » Voilà, il y a ça aussi. Donc voilà, il n'était pas question pour moi d'arrêter l'IAD.
Alors, faire du théâtre pour les jeunes ou qui pourrait intéresser les jeunes, avec des jeunes, c'est un peu la recette alors ?
Quand je dis les jeunes, je dirais des produits frais, je devrais dire en fait. Il faut faire des produits frais, c'est-à-dire des choses qui ne sentent pas la recette toute cuite justement, qui prennent des risques. Je pense qu'il y a un spectacle par exemple qu'on accueille la saison prochaine qui s'appelle Sibylle, qui est un spectacle de Céline Bettbeger, qui est une jeune artiste française de Toulouse, qui est venue étudier à l'INSAS, qui sort avec un projet inclassable pour moi. Je crois qu'elle l'a présenté à 2-3 endroits, on l'a découvert dans les Nuits Blanches. Et voilà, ça pour moi, c'est pas un ovni, c'est vraiment une œuvre d'art, mais je vois pas où on pourrait la mettre d'autre qu'Éric Clair. Et je pense que si déjà on arrive à se dire, ah tiens, des spectacles comme ça, par exemple New York de Dominique Breda, qui est en tournée, qui revient, c'est pas un ovni non plus, mais je dis, ça, c'est l'Éric Clair, c'est étiqueté Éric Clair. Et c'est ce label-là, si on pouvait et dire à un public qui est jeune d'esprit, en fait, je dirais, qu'ils aient 15 ans, il y a des gens de 15 ans qui sont vieux. Donc c'est oui, qu'on leur présente des produits frais à des gens qui sont frais d'esprit. Mais c'est plus ça. Surtout, ne croyez pas que non, ça va être un spectacle d'ado. C'est pas du tout. C'est pas le but. Mais tant mieux s'il y a des ados, tant mieux s'il y a des vieux. Moi, je crois beaucoup au théâtre, c'est-à-dire qu'il y a un côté veillé, c'est-à-dire comme on le faisait dans le temps, pas la veillée scout, mais la veillée, c'est-à-dire qu'on se retrouve tous ensemble pour partager une même chose. La télé aujourd'hui, elle cantonne les gens ou l'internet, c'est que chacun a son écran et regarde ce qui l'intéresse. Voilà, c'est très bien, c'est comme ça. Les émissions, même de télévision, sont tellement précises, c'est qu'on sait ce qui est pour monsieur, ce qui est pour madame. Oui. C'est segmenté, vraiment. Et le théâtre a cette puissance de dire, venez voir la même chose, vous allez regarder tel personnage, l'enfant va suivre un autre personnage, etc. Et chacun va se raconter son histoire. Et moi, j'y crois vraiment à ça. Donc, qu'il y ait une notion de famille, en fait, ou d'intergénérationnel au théâtre. Et voilà, c'est ça qu'on doit développer.
Alors, jetons justement un coup d'œil sur cette saison. La 15e, on disait. Nouveauté, deux salles.
La deuxième salle existait. Donc, c'est-à-dire qu'elle était un petit peu abandonnée. Alors, elle est tout en haut. Et c'est le dernier vestige de l'ancien couvent des Sœurs Noires. Puisque sur le trottoir d'en face, c'était le Riche Clair, c'était les Sœurs Clarisse. Et sur le trottoir où se trouve le bâtiment du Centre culturel et la bibliothèque, c'était les Sœurs Noires. Et le dernier vestige se trouve là en haut. C'est une salle qui doit avoir près de 100 ans. Près de 500 ans. Il y a encore des vieilles poudres, etc. Elle a une âme.
Il fallait la rafraîchir un peu, peut-être ?
Oui, c'est-à-dire qu'elle sert à tellement de choses. On l'appelle la salle polyvalente. ce nom haut prometteur, d'origine grecque, mais multiple. Mais donc, voilà. Donc, souvent, quand on fait salle polyvalente, ça veut dire salle fourre-tout. Donc, on a redéfini un peu ses fonctions et ses projets. Et puis, voilà, on la rend un peu à... à la parole. C'est-à-dire qu'elle va servir de salle de conférence pour la bibliothèque, elle sert de salle de débat, mais elle va servir de salle de spectacle aussi pour les artistes qui vont d'abord dans un premier temps, qui ne nécessitent pas une jauge trop grande. C'est-à-dire parce que c'est des choses qui se découvrent, des choses plus pointues. Et donc l'idée, c'est que ces spectacles puissent démarrer là et partir vers d'autres aventures.
Qu'est-ce qui vous a guidé donc pour créer cette saison ? Parmi les auteurs choisis, on retrouve évidemment Dominique Breda.
Oui.
Il est indissociable d'Erich Kler.
Il a posé son sac et je pense qu'il joue dans d'autres théâtres, heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai que voilà, par exemple, Dominique Breda, j'aimerais bien qu'un jour on le retrouve au Théâtre National. Je trouve que quelqu'un qui écrit, qui est prolixe, qui est fécond, mais qui a un talent incroyable, soit reconnu par des grandes maisons. Tant qu'il n'est pas reconnu par les grandes maisons, oui, il peut continuer à travailler chez nous. Il y a Thibaut Neve aussi qui fait tout un travail d'introspection. Il y a des auteurs, il y a Jean-Pierre Depagne, qui est un auteur confirmé, qui revient. Il y a toute une série, oui, comme le Panache Club aussi, des fidèles, Stéphanie Van Vive, Dominique Ronvaux, qui sont des gens qui restent fidèles au Erich Kler. Et voilà, c'est eux souvent qui s'envolent. Emmanuel de Koenig aussi.
Oui. Voilà. Quel est le rôle d'un théâtre pour attirer les gens ? Et les gens, je veux dire les créateurs, justement.
Mais je pense
les encadrer ?
Il y a une différence entre un théâtre et un centre culturel. Donc un théâtre, je pense que vraiment, il a une fonction artistique précise. Il a une vocation, peut-être même qu'il va cibler une thématique, il va aller vers peut-être même une couche sociale, parce que le quartier l'exige, là où il est situé, etc. Un centre culturel, c'est, comme son nom l'indique, c'est un centre où la culture doit se développer. Donc je pense qu'on a un rôle d'initiation aussi. Donc on va passer par des stages, on doit aller chercher les gens par la main parfois, ou par autre chose, par l'oreille, parce que c'est la musique, par les yeux, parce que c'est le film, le cinéma, et par le cœur, si c'est le théâtre ou la danse. Voilà, je pense qu'on doit suggérer et foisonner, et essayer de rester ouvert le plus possible pour dire aux gens, voilà, c'est ouvert. C'est pas un supermarché non plus, mais c'est dire, voilà, il y a quelque chose, on va veiller. Je pense qu'il y a une espèce de, oui, on est des veilleurs, voilà, veiller à ce qu'il y ait toujours de la culture. Et alors bien sûr, on travaille avec les centres qui sont autour, donc on doit rencontrer l'espace MAG, la Bellone, les entités tout près. Donc on va accueillir des projets du Bruegel, parce que le Bruegel va fermer pour travaux, rue Haute. Et donc, oui, ça doit rester vraiment une permanence de quartier, en fait, voilà. Donc, je pense que c'est une autre fonction qu'un théâtre qui, lui, va peut-être servir une thématique, des auteurs, et l'un n'exclut vraiment pas l'autre.
On va refaire une petite pause musicale et après, on ira encore un petit peu plus loin. Ici, c'est Nougaro que vous avez amené pour le morceau.
Armstrong. Donc, qui est un morceau moi, que j'ai entendu quand j'avais 8 ou 9 ans, et que j'ai reçu vraiment en pleine figure. Je montais l'escalier, et puis la radio marchait en bas, fonctionnait en bas, et mon père écoutait la radio, c'était la RTB, je crois, la première, qui s'appelait Radio 1. Et tout d'un coup, j'entends ce monsieur chanter Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau, quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Les mots chantaient, la musique me prenait, et puis au-delà, c'était la première fois que j'entendais qu'on pouvait chanter autre chose que « Bonjour, la vie est belle, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, zaï, 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 zaï », ce qui est très bien au demeurant, mais tout d'un coup j'entendais qu'il y avait, c'était pas le message, c'était de la poésie, mais ça me touchait vraiment, je l'ai reçu en pleine figure, et puis il termine en disant « Armstrong, quand on sera mort, mes os seront blancs, est-ce que les tiens seront noirs, ce serait rigolo ?» Et à 8-9 ans, j'ai reçu ça, mais vraiment comme de la lumière, comme... On peut chanter, on peut dire ça, on peut faire ça. Et quand je le réécoute aujourd'hui, ça n'a pas vieilli. C'est là où on voit que c'est un grand poète. Et voilà, moi je pense que par rapport à la saison qui vient, je pense vraiment à pouvoir susciter de tels moments, en fait. Il y a Marie Marnon, je voulais vous apporter son CD, mais comme il n'est pas sorti, que c'est son nouveau, je ne voudrais pas qu'on croie que c'est ancien. Elle fait vraiment quelque chose de tout neuf. Et elle ouvrira la saison en... Et c'est aussi, voilà, par exemple, Marie Warnant, c'est aussi un petit moment de poésie où j'ai trouvé vraiment, ça touche au cœur. Et je pense que c'est ça qu'il faut.
Quelle histoire, c'est pas très marrant qu'on l'écrive blanc sur noir ou bien noir sur blanc. On voit surtout du rouge, sans prévenir faut qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. Armstrong un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Au-delà de nos oripeaux, noir et blanc sont ressemblants comme deux gouttes d'eau. Yeah.
Armstrong, Nougaro, donc, pour ce deuxième choix musical d'Éric de Starck, animateur et directeur du Centre culturel d'Erich Clair. Alors, vous disiez moment de poésie, d'humour aussi. On vous connaît aussi pour être un clown parfois triste, un petit peu plus triste, mais en tout cas qui aime être sur la limite.
Oui, 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 je crois qu'il faut être à la limite.
Et souvent, d'ailleurs, dans les spectacles que je remarque, là, on est souvent dans ce cas-là, quand on voit du Des Proches, par exemple.
Oui, 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 mais je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est pas du gros rire, on va pas tirer la mitraillette, le gros rire. Il y a des spectacles qui sont pas drôles du tout. Il y a peut-être des choses aussi que les gens ne trouveront pas drôles, que certains trouveront drôles, d'autres pas. Par exemple, les gens bien n'osent plus sortir le soir de Jean-Claude Grimbert. Mmh. On est vraiment sur une fibre extrêmement serrée. Maman Jeanne, qui est un spectacle qu'on va retrouver à la fin de la saison, avec Lise Diner, n'est pas drôle non plus. Et à la fois, c'est drôle, parce que la détresse, c'est l'histoire d'une femme qui est enceinte, qui attend un enfant d'un prêtre. C'est une histoire vraie, qui date d'un siècle, dont on a retrouvé la correspondance. Et cette femme, elle est touchante, et donc drôle. Et moi, je crois que ce qui m'intéresse, c'est que ce soit cette limite-là. Est-ce qu'on peut rire? Est-ce qu'on a le droit de rire? Est-ce qu'on peut? Et à la fois, on rit tout le temps du malheur des autres. Donc, voilà, est-ce que quand le théâtre est juste, moi, je crois que c'est quand il est en équilibre sur cette chose-là, on va passer du rire aux larmes, et c'est merveilleux. Je veux dire, si on peut chaque fois amener les gens à ça. Mais bien sûr qu'on ne décide pas. C'est les gens qui décident si ça les fait rire ou pas.
Dans vos deux derniers spectacles, Coco Parachute et de l'influence du théâtre belge...
Sur la gestion et la résolution des conflits mondiaux.
Voilà, oui. Je vous laisse terminer. Oui. Vous partiez d'une réflexion personnelle sur le théâtre, justement. Est-ce que ça vous a amené des réponses à ce qu'est le théâtre?
C'est-à-dire, c'est quoi le théâtre? C'est-à-dire que dans Coco Parachute, il se moque d'ailleurs un peu le théâtre. C'est-à-dire qu'il dit, mais pourquoi est-ce qu'on est là? Et ça venait en fait d'une réflexion, on travaillait avec Jacques Viala qui mettait en scène le spectacle. Ça venait d'une réflexion où il me disait, mais il me dit, voilà, tu rentres. Je dis, mais pourquoi je rentre par la scène? Il dit, le rideau s'ouvre, tu rentres. Je dis, mais attends, Jacques, et c'était à partir de quel droit est-ce que j'arrive là? Et tout de suite, j'avais l'impression que ça faisait sketch. Je dis, mais on va pas faire des sketchs, on va... je voudrais que ça mène ailleurs. Et donc, on avait des textes. Et puis, on a commencé à parler. Et avec Jacques, ce qui était agréable et formidable, c'est qu'on prenait deux jours pour ne parler que de ça. Donc on ne répétait plus le spectacle, bien qu'on le répétait. Et je lui dis, mais tu vois, pourquoi est-ce que l'acteur vient de la coulisse? Et il me dit, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Oui, bien sûr, je l'ai bien compris, mais de quel droit est-ce que... voilà. Et donc mon personnage, donc Coco Parachute, arrive par la salle. Simplement parce qu'il se pose la question de par où il arrive. Et puis il explique aux gens pourquoi on en est là et pourquoi on regarde un type sur scène et qu'au début c'était très modestement un guerrier qui se levait et qui disait tiens, ou un chasseur, moi j'ai tué un buffle et je vous racontais comment je l'ai tué et les gens, toute la tribu faisait oh. et puis il y avait des voisins qui venaient, des amis, on disait oh, redis un peu comment tu as tué ton buffle. Il disait bon, ok, d'accord. Et puis il a amélioré, il a pris la peau du buffle, il l'a mis sur le dos d'un autre et puis on a créé le théâtre. Et on est passé de l'impro au théâtre, etc., de la narration. Mais pourquoi est-ce que je monte sur scène? C'est parce qu'en effet, j'ai envie de partager avec les gens une émotion, une humeur. C'est pour ça qu'ils vont monter tous sur scène cette année-ci. Et ils en ont le droit dans la mesure où on les plébiscite. Voilà. Et évidemment, on est en Belgique, on n'est pas à Paris. Peut-être qu'à Paris, ce serait très différent. On serait dans dans le show, dans un système médiatique puissant. Ici, je pense que ce qui est très chouette en Belgique, et je pense qu'au Richclair particulièrement, c'est qu'on est dans l'artisanat. On est des artisans, c'est-à-dire qu'on recommence les choses, on les fait, on les présente, on cherche. Alors, il n'y a pas des moyens extraordinaires, hein, ça c'est clair. Les Richelieu, ça reste une salle modeste. Donc, on ne pourra pas arriver... Mais je pense que l'émotion, l'humeur, l'humour et surtout la dérision des artistes permet tout d'un coup d'envoyer le spectateur très loin. Voilà, et je pense que ça doit rester absolument cette couleur-là.
Mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous dans cette conspiration des planches, un petit peu spéciale pour l'été. On vous souhaite une bonne saison, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter pour le moment, en tout cas. Un peu de repos avant la saison, quand même.
Non, on enchaîne, hein, puisque voilà, c'est une nouvelle fonction, pas de vacances.
Merci Eric de Stark.
C'était donc Eric de Stark, nouveau directeur, animateur, comme il nous disait, du Centre culturel des Richelieu. Alors pour découvrir sa saison, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du Centre culturel des Richelieu, www.lesrichelieu.be. C'est ici que se termine cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous propose de réentendre cette émission, soit en rediffusion le jeudi à 13h30, soit en podcast sur le site demandezleprogramme.be. À la semaine prochaine, on recevra Olivier Coyette, nouveau directeur du Théâtre de Poche. Conspiración.